canoinha. Aujourd'hui, Alter, nom masculin, apparaît pour la première fois sous la forme Alteres chez Rabelais en 1534. Le mot, repris en 1636, est rare jusqu'au XIXe siècle. Il est emprunté au latin impérial Alteres, du grec Alteres, balancier pour le saut, la danse, et du verbe alestai, sauter. Alter s'emploie le plus souvent au pluriel, notamment pour désigner l'exercice sportif qui consiste à soulever des barres de métal munies de boules à leurs extrémités. Et voilà que ce mot, que j'avais toujours pensé au féminin, mais rattaché au vestiaire masculin, est finalement presque tout l'inverse. Un objet pour sauter et danser, au son de la flûte. Car au temps de la Grèce antique, les sauteurs s'accompagnaient de joueurs de flûte pour marquer le rythme nécessaire à la prise d'élan. Le poids comme aide à l'élan. Le poids nécessaire à l'équilibre. Sortir de la salle de sport et ses machines de métal pour aller vers le funambulisme. Faut-il donc se lester pour aller plus loin? Sur la même page du dictionnaire, je trouve aussi ce mélange du poids et de l'envol. Haleine et hallebarde, hallali et halo, halte et hamac, et enfin, halluciné et haleté.
Bonsoir les quenouilles.
Bonsoir les quenouilles.
Donc on accueille deux quenouilles encore aujourd'hui, quenouille Margot et quenouille Rima, et puis quenouille Aliette à la technique, quenouille Caroline à la première partie.
Salut et quenouille, les quenouilles.
Salut, et quenouille Mélédie ici parlante. Quenouille Caro, tu nous dis quelque chose?
Bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Le hasard du dictionnaire nous a fait tirer ce mot alter au mois d'août pour décider comment notre saison quenouille allait s'écrire. Et il se trouve que au mois de novembre, on connaît bien ici les midis de la poésie, qui sont un peu les alliés des quenouilles. Aliette à la technique ici, Mélanie, j'imagine, à l'écoute chez elle. Avec les midis de la poésie, on va faire un apéro poésie le 26 novembre à la Bellone. Autour du sport et de la littérature, de voir un peu quelle danse mène ensemble ces deux pratiques-là. Et en fait, en creusant un peu, j'ai découvert le travail d'une chercheuse, Anaïs Bouillon, que je trouve très quenouille. D'ailleurs, son livre est préfacé par Elsa Dorlin, qu'on connaît et qu'on connaît très bien. Donc, Anaïs Bouillon est une sociologue et historienne qui travaille, son champ de recherche, c'est le sport et comment le genre est travaillé dans cette pratique-là. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Catégorie d'âme, le test de féminité dans les compétitions sportives, qui est paru aux éditions X. en 2015 et qui en fait retrace l'histoire des femmes dans le sport, comment les femmes ont été amenées à pratiquer le sport par les autorités politiques et médicales en France, surtout au début. Donc elle constate qu'à partir de 1870, quand la France essaye un peu de se relever des guerres, de la guerre avec la Prusse, je crois, à ce moment-là. Enfin bref,
oui, je crois que c'est ça.
Qu'essaye de ramener une nation saine et vaillante, se dit que muscler les femmes serait une bonne idée, mais alors oui, mais pas trop, mais comment ne pas transformer trop ce corps qui doit être destiné avant tout à la procréation. Donc on dit oui au vélo, mais alors non, parce qu'en fait peut-être qu'on se masturbe en faisant du vélo. On dit oui à l'équitation, on dit
mais
oui.
De côté.
Quoi?
Mais de côté,
alors voilà. Et puis, petit à petit, en fait, finalement, des collectifs féminins vont prendre de plus en plus de poids et au début du XXe siècle. Jusqu'à ce que il y ait la création des Jeux Olympiques et le désir de certaines femmes de participer à ces Jeux Olympiques. Et en 1960 a été créé au JO un test de féminité. Alors moi, j'ai découvert le test de féminité avec le travail d'Anaïs Bouillon. J'en avais jamais entendu parler. Donc en fait, c'était soi-disant pour détecter les fausses femmes. Les faux hommes. Donc les hommes qui iraient dans la catégorie dames pour essayer de gagner des compétitions, ce qui n'est jamais arrivé. En fait, on n'a jamais découvert qu'un homme se cachait derrière, enfin voilà, prenait l'apparence d'une femme pour aller aux Jeux Olympiques. Mais tout le monde avait très très peur de ça. Donc, on a commencé à faire des tests gynécologiques d'abord, très poussés. Donc, chaque femme devait aller montrer ses parties génitales, et puis on recevait un certificat comme quoi on était vraiment une vraie femme, quoi. Et puis au test de gynécologique a été ajouté un test chromosomique et puis un test hormonal. Alors aujourd'hui, depuis les années 90, on a laissé tomber les tests gynéco et les tests chromosomiques et on n'est plus que sur les tests hormonaux. Mais ce qui est marrant, enfin en tout cas ce qui était neuf pour moi en découvrant ce travail, c'est que ce que révèlent tous ces tests de féminité qui ont été faits, c'est qu'en fait il n'y a pas, alors que les organisateurs s'attendaient à ne trouver que des exceptions. Ils n'ont trouvé que des exceptions. C'est-à-dire que le vrai XX n'existe pas, en fait. Et qu'est-ce qui fait vraiment une femme? Que tout ça a été remis en question, mais qu'on n'a pas vraiment voulu le mettre en question. Donc, on a rajouté encore des tests hormonaux. Et aujourd'hui, les sportives qui veulent participer à certains types de compétitions doivent se faire tester hormonalement, et si elles dépassent un certain stade de testostérone, elles se voient refuser l'accès à des compétitions. C'est le cas notamment de Caster Semenya, qui est une grande championne sud-africaine qui s'est toujours considérée comme femme, enfin qui pour elle est une femme et qui a été élevée, enfin voilà. Et un jour on lui a dit non, en fait vous avez trop de testostérone, vous devez arrêter le 800 mètres. Alors ça fait 10 ans qu'elle est en procès avec les instances sportives. Elle vient en septembre de perdre un dernier recours qu'elle avait fait. Donc la seule solution qu'elle a, c'est de prendre des hormones pour faire baisser sa testostérone, ou alors de renoncer aux 800 mètres et de passer en catégorie 200 mètres. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui je me suis dit comment en fait à travers le sport, en fait toutes ces choses qu'on croit acquises, admises, les territoires, les catégories, les cases, en fait comment ça nous permet peut-être de passer à travers, de faire trembler un petit peu ce qu'on croit savoir de nous-mêmes, même aussi, enfin comment est-ce qu'en fait on peut à travers ça se dépasser, enfin c'est un peu se dépasser, aller vers défier des choses qu'on croit à la base inaccessibles, comment ça modifie nos relations à l'autre, à soi-même, aux éléments, à la terre, au ciel, à la mer, à la pesanteur. Voilà, c'est de ces choses-là dont on va parler, qu'on va essayer d'évoquer avec, je sais pas, allégresse.
Caro, j'ai une question. Oui. Tu sais déjà quelle forme ça prendrait ou...
Alors,
il y aurait... Tu nous fais rêver, hein, donc t'es pas obligé de préciser.
Mais... Non, mais j'aimerais bien qu'il y ait une conférence, enfin, qu'il y ait une sorte de conférence-spectacle qui reprenne un peu l'histoire des femmes et du sport, de comment, en fait, enfin, voilà, qui donne un peu des jalons historicaux, enfin, des repères, voilà, des repères historiques. Et il y aura des textes lus, notamment des textes de Paul P. Preciado, donc qui a un texte de lui que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Corps mouvant, qui est une de ses chroniques qu'il a publiée dans Libération en 2017. Qui voilà. Il y aura des textes de Joyce Carol Oates et je cherche pour l'instant si voilà, je lance l'appel à Radio Panique et aux Quenouilles. J'aimerais bien qu'il y ait avec nous un homme qui pratique un sport qui ne soit pas forcément de son genre, en fait. Enfin, que...
Dans la représentation, quoi.
Voilà, ouais. C'est ça, qui ne travaille pas forcément sur l'idée de la masculinité, qui...
Billy Elliot à 45 ans, quoi.
Voilà, ouais. Quelque chose comme, quelqu'un comme ça, qui puisse venir performer quelque chose devant nous, avec nous, et donc voilà, donc j'ai repéré un champion de natation synchronisée belge. Je sais pas s'il m'entend quand je parle,
mais certainement pas.
Mais je souhaiterais vivement l'inviter aussi voilà, je cherche d'autres pistes aussi, mais donc voilà, de pas forcément être que entre meufs, mais parce que aussi voilà, comment le sport est aussi peut-être une injonction à la masculinité que certains hommes refusent ou prennent d'autres chemins, enfin qu'on n'est pas les seuls, disons, qu'on n'est pas les femmes sont pas les seules prises dans ces carcans qui nous enferment. Et nous,
il y a peut-être aussi le fait que dire que on va le faire entre femmes, pour le coup, c'est comme s'il y avait la nécessité que les femmes ne puissent pas faire le même sport que les hommes ou des choses comme ça, quoi. Je vois ça un peu comme ça, moi, que finalement. Le sport, dans ce que tu dis, en plus, si au niveau chromosomique, c'est pas si clair qu'il y a des XX et des XY et que du coup, il faudrait peut-être les séparer parce qu'ils vont pas faire les mêmes performances, alors, bah oui, faisons du sport ensemble. Enfin, ouais. Tu vois, ne coupons pas à cet endroit-là, quoi.
C'est ça. Il y a plusieurs théories, hein. Enfin, je veux dire, des chercheurs qui, du coup, essayent de proposer aux JO d'autres manières que de fonctionner, de créer une catégorie neutre, par exemple. Ouais, et de voilà, pardon. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter.
Non, c'est bien.
À l'école de mon fils, les garçons et les filles font du sport séparés, alors qu'on est dans un athénée, dans une école publique, à Excel, enfin, peu importe, mais bon, on pourrait aller dans d'autres clichés, mais bon, voilà. Et quand je lui ai dit, mais t'as demandé à ton prof pourquoi vous êtes séparés, etc., il dit, c'est pour éviter les moqueries.
Oui. Oui, tu vois, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de raison que les hommes et les femmes puissent pas faire du sport ensemble et que les hommes.
Non, mais moi, pour moi, c'était clair, ouais. Qu'à 12 ans, à l'Athénée, enfin, même à 15, ou je ne sais pas, enfin, j'avais plus pensé ça. Enfin, tu vois, qu'il n'y a pas un côté école de garçons, école de filles, quoi. Et il m'a dit, c'est parce qu'il y a trop eu de harcèlement les années précédentes, et donc cette décision, pour la première fois, est prise cette année. Donc voilà, donc je vais porter ça un peu autrement, quoi. D'aller voir les autres parents, les autres profs. Enfin voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur ce qui s'est vraiment passé et comment faire pour que ça soit pas ça, en fait. Parce que ça va creuser beaucoup de choses.
Et c'est donc, sûr.
À mon époque, on faisait aussi le sport séparé.
Moi aussi, hein, oui, c'est ça, ouais. Ce que je suis en train de me dire.
Tu vois, ça n'a plus été. Et ça a été, enfin, moi, j'ai fait du sport, j'ai fait de la lutte gréco-romaine. On était deux filles sur 25 personnes. Et on gagnait tout le temps parce que les garçons n'osaient pas nous faire des prises. Donc moi, c'était super, j'ai adoré ça. Mais au-delà de ça, c'est parce que à l'époque, ça ne se faisait pas. Maintenant, il y a tout ça. Mais c'est encore pas mixte, par exemple, la lutte gréco-romaine. Enfin voilà. Mais donc, dans une école, a priori, public et dans des perspectives de dégenrer, voilà, il y a quelque chose ici qui ne me pose pas problème politiquement. Je comprends pourquoi c'est fait, mais j'ai envie de savoir comment on peut faire autrement. Mais donc, question ouverte à l'école de mon fils, entre autres.
J'espère qu'ils nous entendent aussi.
Ouais.
Ouais.
Caro, donc c'est le 26 novembre.
C'est le 26 novembre à la Bellone, à 18h. Vous pouvez déjà réserver vos places sur le site des Midis de la Poésie. Ouais. Les jauges sont un peu réduites pour le moment, donc ça part assez vite.
Ouais. Et il y a un live en général.
Ouais, c'est ça, un live retransmis. J'avais d'ailleurs pensé en me disant, bah, tiens, peut-être qu'on pourrait faire un studio volant des quenouilles ce jour-là, à voir si on a envie d'une émission bonus.
Une émission bonus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est chouette, c'est une bonne idée.
Voilà,
on l'a déjà fait à la Bellone en plus.
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, il faut parler de Héloïse Jadoul, qui est actrice qui m'accompagne dans ce projet, et Octavie Pierron, qui est aussi une quenouille. Ouais. Qui sera là pour coordonner tout ça et faire la technique avec moi. Et puis, dire merci quand même à Mélanie pour cette proposition toujours enthousiasmante.
Mm. Ben super, voilà. On va y aller d'abord et puis on va parler quelque chose dont tu as cité Caster Semenya et tu as cité ça. Et moi, je vais juste lire une petite intro par rapport à ce qui va passer ensuite. Et donc, c'est un entretien avec Judith Depaul, qui est une des porteuses de la compagnie Ma Belle Octobre. Et voilà, il y a plusieurs projets. On va mettre les informations sur la page des quenouilles. Comme ça, vous pourrez les piocher. Il y a plein de ressources. Il y a plein de dossiers pédagogiques et des dossiers artistiques. Et elle a fait un cycle de spectacles. Un sur le rugby, et un sur l'haltérophilie. Et elle a rencontré une haltérophile qui s'appelle Nurkan Taylan, qui est la première sportive turque à avoir décroché une médaille d'or aux Jeux Olympiques, qui dit d'elle-même: j'ai été désignée comme la femme la plus forte du monde en soulevant 2,5 fois mon poids. Mais en fin de compte, je suis une femme. Je n'aime pas trop dire que je suis très forte, car je suis en même temps quelqu'un de très sentimental et de fragile. Ce sont ses paroles. Et on écoutera ensuite la rencontre entre Judith Depaul et voilà. Et alors, on parle alors d'haltérophilie. Et dans un des dossiers pédagogiques que j'ai trouvé sur la compagnie Ma Belle Octobre, voilà, je vais lire ça et ensuite on passera la capsule de l'entretien avec Judith Depaul. L'haltérophilie est l'expression la plus manifeste de la force physique. Depuis l'Antiquité, Kenu Grima nous a fait une introduction là-dessus, les hommes exécutent des tours de force, se donnant en spectacle dans des exercices de portée ou de levée. Les concours d'hommes les plus forts ont donné naissance au XIXe siècle à l'haltérophilie moderne. On trouve de la même façon en Europe, au Canada et aux États-Unis, fin du XIXe, début du XXe, des femmes d'une force exceptionnelle, se produisant dans des cirques ou lors de spectacles. C'est une des disciplines inscrites à la reprise des Jeux Olympiques modernes en 1896, mais uniquement pour les hommes. Les femmes y font leur entrée 104 ans plus tard, après avoir servi de hors-d'œuvre attractif aux compétitions masculines. La Fédération d'haltérophilie turque voit le jour en 1923 avec la fondation de la République turque. Dans les années 60, le sport se démocratise, des clubs s'ouvrent et les athlètes turcs commencent à accéder aux premières places. Bon, il y a plusieurs héros qui sont cités dans son dossier, etc. Je passe. On peut dorénavant dire forte comme une turque. Sachant que l'expression fort comme un turc ne vient pas de la Turquie, mais on en reparlera une autre fois. L'apparente simplicité que revêt le fait de soulever la barre est trompeuse. L'haltérophilie n'exige pas seulement de la force brute, mais aussi de la rapidité, de la technique, de la concentration et de la coordination, au prix de centaines d'heures d'entraînement. L'athlète le plus musclé du monde n'arrivera à rien s'il n'a pas la technique appropriée. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas les haltérophiles les plus lourds qui sont les plus forts. Au kilogramme près, les poids légers soulèvent souvent une charge plus importante. Et on va écouter l'interview de Judith Depaul. Merci Aliette.
Allô. Bonjour Judith, c'est Milady de Bruxelles.
Oui, bonjour.
Bonjour. Voilà, et donc j'ai une première question. Comme pas mal de domaines sociaux et professionnels, etc., le sport et les représentations de puissance et résistance sont genrées. S'appuient sur des mécanismes bien sexistes. Et donc vous et votre compagnie, vous en êtes emparés scéniquement et politiquement. Comment ça vous est venu, et alors comment vous avez procédé pour alimenter cette réflexion, quelles rencontres vous avez fait, en tout cas celles qui vous ont le plus marqué ou celles qui vous ont le plus nourri. C'est possible de commencer avec ça?
Ouais, alors en fait la chose qui m'a, je pense, assez marquée, c'est que il y a eu je crois un colloque sur cette question, et que en fait l'école de sociologie du sport en France, elle est animée par des gens qui sont assez intéressants. et assez engagée et qui avait vraiment envie de faire bouger les lignes.
Ouais.
Et donc, en les écoutant, je me suis dit qu'effectivement, c'était un champ hyper intéressant et que moi, je pourrais y trouver des choses aussi à retranscrire au théâtre, parce que c'est une chose de dire de dénoncer des choses, mais il faut quand même que ça reste un matériau artistique.
Ouais.
Et voilà, il m'a semblé que non seulement c'était vraiment un endroit comme une espèce de loupe énorme sur la façon dont on percevait le corps de la femme et surtout comment il était acceptable ou pas acceptable, et autant du point de vue des femmes que des hommes.
Oui.
Mais aussi le champ, on va dire, l'équipement sportif, la façon dont le sport est mis en scène, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec sur une scène de théâtre, et que voilà, et que du coup j'y trouvais mon compte, et que je pouvais à la fois dénoncer quelque chose de sociologique, de politique, mais en même temps rester dans une dimension artistique qui est quand même importante, parce que quand bien même on fait du théâtre du réel ou du théâtre documentaire selon les étiquettes qu'on met dessus, il faut quand même voilà qu'on y trouve une transposition artistique
et une forme. Ouais, ouais.
Et une forme, et voilà. Et le sport, c'est de ce point de vue-là, comme déjà il y a quelque chose de très marqué dans l'espace avec une décomposition du mouvement, ça déjà c'est un point de départ qui est formidable sur une scène de théâtre. Et donc si on veut vraiment l'utiliser, on y trouve forcément des choses à faire. Donc après, tout l'exercice a été de trouver des actrices, des performeuses.
Ouais.
Qui était capable de faire autant une performance physique qu'une performance actée. Et c'est pas simple de parler en bougeant, c'est pas simple de d'engager son corps de cette façon-là. Et pour moi, c'était vraiment très important qu'on ait un corps engagé comme quand on est sur un terrain de sport.
Et donc vous avez croisé
Alors donc j'ai croisé des sociologues du sport, et puis ensuite je suis allée à la rencontre de sportives, et ça a été assez facile.
Ouais.
Pour le premier projet qui concerne Kamila Skolimowska, la première championne olympique de lancer de marteau, très simplement, j'ai demandé à une amie polonaise d'appeler la fédération, et il y avait très vite. Ouais. Je pense que c'est pas des sportifs qui ont beaucoup de spots, et donc elles sont assez heureuses quand on s'intéresse, ouais, à elles. Ouais. En tout cas, à l'époque, même pour le rugby féminin, il y avait rien. Maintenant, ça a changé, mais à l'époque, il y avait rien du tout. Donc, ouais. Au contraire, elles étaient hyper heureuses quand on s'adressait à elles, quand on voulait leur consacrer du temps, quand on leur posait des questions. Elles étaient hyper disponibles et hyper prédisposées à.
Ouais.
Donc ça a été la première chose. Donc je suis rendue en Pologne, et puis elle a été formidable, Kamila, parce qu'elle m'a dit, mais il y a des questions que je me suis jamais posées de ma vie, mais j'ai vraiment essayé d'y répondre. Et elle a vraiment pris le temps d'y répondre en se posant vraiment des questions très sincèrement. C'était pas du tout de discours tout fait. On sentait que ça ouvrait un champ de réflexion. Et donc on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble, et j'ai été très très impressionnée par la solitude de cette femme et de ce sport qui est terrible, ou qui consiste en quelques secondes à jeter quelque chose de soi et qu'on laisse comme ça dans la nature, et
oui, avec le corps qui rebondit à la fin. Il y a toujours ce truc là d'avoir lâché le temps, et ouais, c'est toujours très surprenant en effet. Ouais.
Ouais. Et moi, ça fait depuis toujours que j'ai une fascination pour les sports du lancer. Sais que quand à la télévision, je regardais toujours ces choses-là, parce que je comprenais vraiment pas. Je pense une fascination liée au fait de ne pas comprendre comment ça se passe.
Ouais.
Bon, donc là, j'ai vu, c'est un moment d'une complexité folle avec qui dure que quelques secondes, et tu joues ta vie, quoi, en quelques secondes. Je veux dire, c'est la grande différence quand même avec un sport collectif où tu es avec les autres, où ça dure, où voilà, tu peux avoir l'impression qu'il y a de gérer un temps quand même. Là, c'est vraiment un condensé d'énergie vraiment assez impressionnant.
Oui.
Donc voilà, puis je me suis posé des questions de comment est-ce qu'on filme le sport quand on n'a pas le super équipement qu'à la télé, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est assez compliqué en fait.
Ouais.
D'arriver à obtenir l'endroit où ça rebondit au moment où ça rebondit. Les filles jouaient au rugby, donc là pareil, ça a été très simple de les contacter. je suis passée par des fédérations, ça a été très vite, sans problème à chaque fois. Enfin, plutôt, ils étaient tous plutôt assez accueillants et assez contents qu'on s'intéresse à elle, d'autant plus voilà qu'à l'époque le rugby féminin n'était pas montré à la télé.
Ouais.
Et donc oui, alors on fait comment pour filmer un match quand on n'a qu'une caméra, ça c'est
ouais.
Ça c'est assez drôle. Hein. Ouais. Mais quand tu mets ta caméra d'un côté, évidemment le ballon il tombe de l'autre côté.
Ouais, et puis tous les
donc, voilà, donc on a vu
les grandes courses et tout, c'est complètement dingue. Ouais. Ouais, la distance à parcourir.
Donc on a trouvé des astuces et puis pour finir les personnes qui filmaient, là en l'occurrence c'était une femme, elle s'en est super bien tirée. Enfin, je trouve qu'elle a fait des très belles images. Voilà, et après pour le dernier, l'haltérophilie, pareil, ça n'a pas été très dur non plus de trouver des interlocuteurs, mais alors par contre l'athlète, elle était dans un discours complètement fermé, complètement formaté en fonction de ce que lui avait, je pense, dicté la Fédération d'athlétisme.
Okay.
Et donc, en fait, il n'y a pas eu de rencontre. Il n'y a pas eu de rencontre du tout. Et donc, j'ai essayé de travailler sur la non-rencontre.
Okay.
Puisque, voilà, elle répétait toujours la même chose en boucle. Et on sentait que derrière, il y avait plein de choses glauques. Plein de choses glauques, des histoires de dopage. D'ailleurs, elle s'est fait arrêter pour dopage quelques mois après.
Okay.
Moi je pense aussi des histoires d'abus sexuels. Enfin, on sentait tout ça en creux, mais elle disait rien. Elle disait que tout allait très bien et que tout allait très bien pour les femmes en Turquie. Voilà.
Ouais.
Alors qu'on sait bien que ce n'est pas du tout vrai et qu'il y a des endroits de la Turquie qui sont parfaitement féodales.
Ouais.
Mais donc voilà, donc j'ai essayé de jouer avec cette chose-là. Quand on ne veut pas parler, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Voilà. Ouais.
Parlons de la jonction et du lien avec le médical et quand je dis médical, c'est le lobby pharmaceutique et aussi l'injonction et les restrictions et les modifications corporelles. Est-ce que ça, dans votre parcours d'artiste et d'artiste en train de se poser des questions, vous avez pu avoir accès à des documents ou accès à des réalités ou des parcours, ou ça c'est vraiment, enfin là, je veux dire depuis un certain nombre d'années, il y a des choses qui sortent, mais il y a aussi le phénomène de prendre certaines pilules pour pas avoir les règles en même temps, les stérilisations, enfin il y a apparemment, de moi ce que j'en avais vu aussi, c'était énorme en termes d'injonctions. Et donc ça, est-ce que c'est quelque chose que vous...
Alors, c'est des choses qui restent quand même extrêmement taboues, mais j'ai essayé de l'aborder de façon assez frontale en allant rencontrer des anciennes sportives de RDA,
ouais.
Parce que c'est l'idée de faire un quatrième volet un jour là-dessus.
D'accord.
Et là, j'ai rencontré des femmes qui avaient vraiment été très, 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 très dopées au point d'avoir des changements corporels hormonaux terribles.
Ouais.
Et là, j'ai entendu des choses absolument effroyables, mais vraiment des personnes qui ont servi de cobaye, quoi.
Ouais. Ouais, ouais.
Et donc, c'est vraiment le corps de la femme comme un cobaye. Et on en avait parlé, j'avais invité un médecin du sport qui disait que l'amplitude ou la possibilité de dopage sur un corps féminin était beaucoup plus étendue que sur un corps masculin.
Okay. Ouais.
Et que du coup, on pouvait relire toute l'histoire du corps, du sport féminin, de l'histoire des tests de féminité à l'aune de ça, parce que effectivement, ça a été un enjeu de médaille pendant la guerre froide.
Ouais.
Et ça reste l'enjeu de médaille aujourd'hui, parce que les femmes, elles peuvent dans certains sports absolument rattraper musculairement les hommes.
Ouais.
Et donc ça va changer toute la donne. Voilà.
Et on a le cas un peu dans l'autre sens du coup de Caster Semenya que vous mentionniez déjà dans votre note d'intention que j'ai lue. Et donc là on est dans un autre rapport qui est pas opposé en soi. C'est pas parce que on voudrait lui imposer tout un traitement hormonal pour qu'elle puisse être à la hauteur des autres femmes puisqu'elle elle est hyperandrogène. Donc hyperandrogène pardon. Mm-hmm. Et du coup, voilà, est-ce que ça, du coup, ça fait partie de choses que vous prendrez en compte dans l'éventuel prochain spectacle et,
Oui, parce que ce qui se passe avec Esther, Semenya, c'est qu'en fait, on lui demande de réguler son taux de testostérone.
C'est ça, ouais.
En fait, maintenant, les normes changent au fur et à mesure, et maintenant, c'est le taux de testostérone qui doit être régulé. Donc, si elle le régule, ça va.
Ouais.
Mais bon, donc, en fait, on lui demande de pas être trop un homme.
Ça,
effectivement, ouais. On en revient toujours à ça. C'est-à-dire, ces femmes qui seraient trop des hommes. Quoi ouais. qu'il arrive, depuis le début, c'est ça.
Ouais.
Et moi, je me rappelle même quand j'ai fait le spectacle sur le rugby, il y a des femmes dans le public qui m'ont dit, mais comment tu peux montrer ce corps féminin comme ça?
Ah ouais, ouais, ouais.
Donc il y a un truc qui persiste, qui est vraiment très 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 ancré dans l'inconscient, dans l'inconscient collectif, qui fait que il y a du chemin à faire.
Hein. Ouais, clairement. Voilà. Juste, dernier point, si c'est ok pour vous, par rapport à, vous avez fait un continuum historique dans un des dossiers pédagogiques sur la notion de corps performatif dans le théâtre et dans le sport. Vous avez mis des points en évidence. Est-ce que vous en pourriez en nommer un ou deux comme ça, parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Je renverrai les auditeurs et les auditrices à cette question-là. Mais voilà, comment ça vous est venu et est-ce que vous, ça vous a pratiqué aussi dans la métamorphose sur scène?
Moi je trouve que la performance sportive et la performance artistique, elles sont assez proches en fait. Il y a l'idée de tout donner, de sortir de soi-même, d'aller au-delà de soi-même. Et je pense que il y aurait des choses, des parallèles et des rencontres à faire, à mon avis, plus que ce qui est fait aujourd'hui. On a assez tendance. Bon, moi je trouve moins ces dernières années, mais pendant très longtemps, c'était le sport d'un côté et l'art de l'autre. Et je pense que c'est vraiment deux choses qui doivent se rejoindre et dont on a à apprendre l'un de l'autre pas mal de choses. Moi, j'étais très, très impressionnée une fois de plus par cette sportive olympique c'est-à-dire quand les femmes disent je mange rugby, je couche rugby, je pense rugby, en fait, quand on est un artiste, on est pareil, on ne fait que ça.
Alors moi, Kenoï Margot, je suis très contente d'être là, mais j'ai un peu peur, mais j'avais envie de vous raconter ma vie. Je voulais vous dire que j'avais mis longtemps à vouloir arrêter de me dissoudre, puis ensuite j'ai mis encore plus longtemps à le faire. D'ailleurs, il y a encore du boulot. Devenir quelqu'un, quelqu'une, exister, s'affirmer, se dire que ce qu'on a à dire vaut le coup d'être dit, et même d'être entendu, ça peut prendre du temps, tout ça. Le temps de gratter là où ça fait mal. Le temps de démonter tous les apprentissages petits morceaux par petits morceaux. Tous les graviers coincés sous les chaussures. Le temps de faire face à son propre doute qui dit « laisse tomber, retourne plutôt te planquer, écoute-les ». Le temps de se farcir tous les « ah, oh, faut toujours que t'exagères, de toute façon, t'es toujours contre ». Tout ça là, vous voyez. Et puis, finir par ne lire plus que des livres écrits par des femmes et ne regarder plus que des films réalisés par elles, même pas exprès, comme une évidence. Commencer par apprendre à s'énerver. Des années de boulot. Des années à essayer de cesser de faire le hérisson, de juste se mettre en boule en sortant des petites piques. Faire pousser des griffes et des mots à la place. Tout ça là, vous voyez. Et puis, petit à petit, j'ai compris que pour que ça marche mon truc, fallait aussi que je devienne un peu balèze. Parce que bon, faire des doigts d'honneur à tout va, ça suffit pas, et puis ça peut même être dangereux parfois. Mais j'avais jamais bossé à faire pousser des muscles dans mon corps. Pour moi, le sport, c'était l'odeur acide du déodorant Ushuaïa dans les vestiaires. Prendre des douches collectives en gardant ton t-shirt. Cirer le banc pendant les matchs de handball et être à l'aile quand il n'y avait pas de remplaçante, là où on ne passe jamais la balle. Peser deux fois moins que les autres joueuses et te retrouver le cul par terre pendant trois quarts des entraînements. Avoir des bleus. De toute façon, ne pas réussir à attraper la balle et te faire des entorses aux doigts. Le prof de sport à l'école qui te force à faire la roue 15 fois devant tout le monde alors que putain, tu sais pas faire la roue. La fois où il a obligé ce gosse à monter à la corde devant tout le monde alors que bordel, il savait pas monter à la corde et que le gosse s'est pissé dessus. Marquer un seul but en un an de basket et contre ton camp en plus. Le Tour de France et Roland Garros à la télé, malaise. La Coupe du monde de foot, dur. Les Jeux Olympiques, malaise. Des gens très très enthousiastes qui crient très fort et très virils, qui s'encouragent à foutre une pétée aux autres. L'odeur critique de la crème au camphre qu'on met sur les crampes à l'arrivée des courses à pied. Et le bruit des crampes sur le visage livide des coureurs qui ont dépassé leurs limites. Bref, rien de réjouissant. Alors j'ai cherché. J'ai essayé la danse. Mais bon, il y avait un grand miroir où on pouvait voir tout le monde dedans. J'ai fini dans un bar à me saouler toute seule. Courir, ouais. La piscine, ben non, ça pue le chlore. Le yoga, ça j'ai bien aimé, mais après plusieurs années, j'ai trouvé ça un peu questionnant, tous ces blancs en pyjama blanc qui chantent des mantras en sanskrit. Je me suis dit que pour être vraiment balèze, il me fallait un sport de combat. Je suis allée au Sistema, c'est un art martial russe. Les gens, tous des mecs, ils ont fait plein d'efforts pour être accueillants, mais quand le prof a expliqué un mouvement en disant un coup de bite en avant, un coup de bite en arrière, je me suis dit que ça le ferait pas. Alors je me suis dit la boxe. Ça m'a pris longtemps avant d'oser. J'ai habité 2 ans à côté d'un club de boxe qui proposait des cours réservés aux femmes. Mais bon, il y avait un gros cobra dessiné sur la devanture et dedans le bâtiment des cages pour le free fight, ça m'a refroidi. Et puis je suis allée à un cours d'autodéfense à la maison des femmes de Skerbeck. C'était cool. Le genre d'endroit où tu sens que tu peux être toi et que tout le monde s'en fout pas mal. Le genre d'endroit où tu commences par t'asseoir en cercle et par dire ton pronom et ton prénom. J'ai appris. Et puis le genre d'endroit sans mexis, sans pression, sans virilité, sans peur. Alors j'ai rencontré le Nemesis Fighting Club et j'ai commencé à aller à leurs entraînements. Le collectif Nemesis Fighting Club, c'est, dixit son manifeste, un projet politico-sportif. Un espace féministe et populaire qui véhicule des valeurs antifascistes, autogestionnaires, de respect mutuel, de transmission des connaissances et des expériences. C'est un lieu d'entraide, de solidarité, d'apprentissage, du sport et des luttes féministes. Il s'adresse à des groupes mixtes de femmes et minorités de genre. Il a pour but de créer une organisation féministe selon une double perspective, pratique sportive et discussion politique. Il vise l'ouverture de lieux safe à travers la mise en place des conditions nécessaires à des espaces les moins oppressifs possibles, qui s'affranchissent des dictats du patriarcat, du machisme, du fascisme, du racisme, du classisme, du validisme, de l'agisme, de la transphobie, de l'homo-lesbophobie, de la grossophobie et de l'intolérance de genre. Les séances se veulent les plus accessibles possibles. L'activité sportive ne devrait pas être le privilège d'une classe sociale. Toutes les femmes et les minorités de genre devraient pouvoir pratiquer le sport sans contrainte financière et sans subir de discrimination. Pour le Nemesis Fighting Club, la pratique du sport est centrale. Elle est exercée dans un environnement où l'on refuse la compétition malsaine et stéréotypée. Au contraire, le respect mutuel et la collaboration parmi les participantes sont à la base du projet. Dans un esprit de complète égalité. En effet, quand les salles de sport sont dominées par le virilisme, le sexisme et le paternalisme, la mixité choisie des cours est un outil pour que toutes les participantes se sentent en sécurité et puissent développer la sororité et la delphité. La pratique du sport telle que nous la voyons est un outil qui aide les participantes à se connaître et à connaître d'autres personnes. Oui, quel programme, hein ? Alors peut-être que je suis un peu en train de devenir balèze, peut-être même que j'ai toujours été, vous voyez. Et puis un jour de novembre, de ceux qui te remettent bien à ta place, là, qui te grisaillent la force, en revenant de la boxe, j'ai écrit ça. Debout. Pas à moitié. Dedans le sol. Les yeux droits. Dans la gueule du monde. Tu mâches tes revanches, tu te renforces, tu te rends service. Tu te forces le trait. Tu gagnes en muscles. Tu te fais suer le corps parce que t'en as qu'un seul et tu l'écumes en l'écoutant. Les yeux droits, dans la gueule de ce monde, tu boxes ton propre reflet pour te faire taire le bluff. Tu sais qui t'es. Tu postures, tu te fais tronc, tu te tiens ensemble, tu te regorges. Tes avant-bras tendus, ta nuque tenue. Ta peau tout entière, tes os dedans. Mâchoire calme, dos droit, force. Ça vient d'en bas, ton torse, ton écorce, force. Tes épaules, tes branches, la vie dans ton ventre, jusqu'au bout des doigts, liane, t'es prête. À regarder autour sans faire semblant, sans les paupières pour protéger, t'es prête. À recevoir les coups et à les rendre.
Bad girls do it well. she gets smashed just like ham sandwiches. Scandalous, vandalous, M.I.A. can't handle this. We on fire like a candlestick and get the crowd pumped up like asses. Money in my pocket and I'm bouncing like a hydraulic. And the beat be so retarded, bass be kicking like karate. Whoa, got that flow, make them freaks wanna get down low. Get down low, make them touch their toes. I got them flows, ain't heard before.
Let's go!
Grab it there, grab it too. DJs, play the hit. Classical, epicness. Me and M.I.A. we too legit. Be bringing all the regal in the pool PS, combining one frame, powder my water, but this my way. You take orders like my chicken saute, try to sauce on the fried fish, I ate. Bitches try to shimmy my shake, bitches try to diddy my mace. Who run the city, I'll play full flex. Best thing going up, bitches is okay. Bitches on the wall, going this my lane. Proba, proba, all my propaganda. Papa with some rosters, papa better pop a shot with the former monsters. Cold cabin models, dope on the rival, Visa and Zacasa. Been in Bahamas, eating on my chocolate. Who me really won't go, won't go. I'm a Mack truck, and you niggas all tongue up. Niggas act up, then it's for the city, all must get clapped up. Nigga, you can get applauded. Bitch, back up, bitch, you're fitter than your garments. To the be me, you're on the roof with the harness. Just AC, I don't need no accomplice. Better roll deep to the GGCCWEWE. I'm a bustin' nigga in his element of PP. Why niggas better hide their little brother when they see me? Why all these niggas riding with these turns on the knee squeeze?
C'était Bad Girls de la chanteuse anglaise M.I.A. remixée en trio avec les rappeuses Missy Elliott et Azealia Banks. À propos de Nemesis Fighting Club, le collectif vous invite ce samedi 10 octobre à 18h pour une discussion sur le sport et le genre à la FLAC. La FLAC, c'est rue des Orchidées numéro 10 à Anderlecht et c'est ce samedi à 18h.
Moi c'est Maya, j'ai 27 ans. Ça fait un peu plus d'un an que je suis coach. C'était pas un métier de prédilection. Donc j'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans jusqu'à mes 16 ans. J'ai eu un arrêt de 4 ans qui m'a valu une grosse prise de poids et j'ai dû me confronter à la reprise, la remise en forme en salle de sport. Donc à l'époque, c'était pour moi un peu le début des basic fit, etc. Et donc j'arrive dans cette salle de sport et je vois qu'il y a plein de coachs hyper musclés, soi-disant beaux, beaucoup de mecs qui font du bruit dans la salle. Et puis moi, je sais pas trop où me mettre. Et puis finalement, je fais tout un travail sur moi-même. Et d'abord, je me suis concentrée sur moi. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, je suis peut-être pas la seule à flipper en arrivant ici. Et c'est là que j'ai décidé d'être coach. Voilà, je me suis dit, j'aimerais bien aider un petit peu les personnes à se remettre en forme et à rendre le sport accessible aussi, parce que c'est très cher d'être accompagnée. Et évidemment, aider les plus jeunes femmes, en fait, à se mettre au sport, parce que c'est justement vers l'âge de 16 ans que les choses se compliquent un petit peu, quand on découvre son corps et que du coup, on s'amuse surtout à le cacher et à perdre un peu la notion de santé. Voilà, et à oublier de prendre soin de soi alors qu'on est dans la fleur de l'âge, donc c'est hyper important. Je suis personal trainer, c'est le titre exact, depuis 4 mois à temps plein. Et je donne aussi par exemple des cours de yoga, je ne fais pas que du renforcement musculaire, je fais beaucoup de cours de yoga, j'essaie de toucher à plein de filières différentes pour permettre aux gens de bouger de manière ludique. Mais c'est mon métier en full time et c'est super chouette. Le fait que je sois une femme, une jeune femme, ça joue dans la balance, dans le coaching, ça crée quelque chose. De plus en plus, dans mon métier, je me rends compte que le problème ne vient pas toujours de là où on pense. En fait, il vient souvent de cette gestion émotionnelle qu'on remet toujours sur le fait d'être une femme. Donc voilà, parce qu'on subit des pressions de part et d'autre. Et surtout, je suis pas une coach qui vend du rêve. J'ai des problèmes, j'ai des faiblesses, j'ai des bêtes noires. Je ne me réveille pas tous les matins de bonne humeur. Je ne me réveille pas tous les matins en me disant que la vie elle est géniale et trop belle. Non, moi je suis en dépression 50% du temps aussi. J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai pas envie de m'entraîner. Et par-dessus tout, j'ai envie de manger du chocolat. Et j'hésite pas à le dire. Et en fait, je pense que ça fait un peu la différence. Donc, d'être une femme, mais qui ouvre la porte à une autre femme, qui est totalement transparente, bah ça crée quelque chose de différent. Voilà. Et ça porte ses fruits. Est-ce que j'ai le temps de m'entraîner? Oui. Parce que j'ai décidé de prendre le temps de m'entraîner. Mais j'ai un planning tout aussi compliqué que mes sportifs que j'entraîne. Donc cette phrase qui dit « j'ai pas le temps de », elle est applicable, oui et non, à tous. Donc c'est vrai que moi, j'ai parfois des entraînements avec des sportifs à 7h du matin. Moi, je me lève à 5h et je vais m'entraîner à 6h. Donc voilà, je finis ma journée à 20h, je m'entraîne à 21h et je rentre chez moi à 23. Donc c'est un choix de vie. J'ai trouvé mon équilibre professionnel. Mais à côté de ça, je peux pas être moi-même dans mon travail si je continue pas à faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est le sport. Ça m'apporte énormément de choses. Ce n'est pas un bien-être esthétique, en tout cas pas que. Il y a de ça évidemment, parce qu'on a été une jeune femme obèse, on préfère ne plus l'être. Mais après, il y a un côté très très soutien psychologique, dépassement de soi. Moi, j'ai vraiment besoin de me dépasser. J'aime beaucoup le challenge. D'ailleurs, la discipline que je pratique pour le moment, c'est le crossfit, à côté du yoga, qui sont deux choses totalement opposées, mais qui m'apportent les mêmes choses, au final. Ce que j'applique à moi, j'essaye de guider les gens à l'appliquer sur eux-mêmes, mais jamais en étant sûr que ce soit la clé ou la solution, parce qu'effectivement, on a des besoins différents, on a un passé différent. On a des bêtes noires totalement différentes aussi, donc ce qui va fonctionner pour moi va peut-être pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. En tout cas, moi j'essaie toujours d'apporter mon expérience. Donc déjà, la première chose, c'est être en accord avec soi-même, se regarder dans une glace tous les jours, mais sans se détester. Alors je ne dis pas que je m'aime tous les jours, c'est faux. Notre corps change continuellement. Le corps qu'on a, le corps qui performe n'est pas un corps qui esthétiquement me plaît, par exemple. Mais je sais que c'est lui qui va m'amener loin. Donc, je fais avec. Et en général, j'essaie toujours, donc pour moi, ou pour mes sportives et sportifs, j'essaie toujours de les aider à faire face à eux-mêmes et à accepter qui ils sont et ce qu'ils ressentent. Donc on vient pas au sport pour écraser une émotion. Non, c'est comme méditer. On fait pas de la méditation pour ne pas penser. Justement, en fait l'idée c'est de faire face à tout ça. Donc pour moi ça c'est un axe important, c'est faire face à la réalité. Chose hyper importante pour travailler sur son corps, c'est la liaison qu'on a avec l'alimentation. Qu'est-ce que je mange? Pourquoi je vais le manger? Quand? Comment? Et donc là, on rejoint aussi l'aspect psychologique, parce qu'on a tendance à manger avec les émotions. Et l'alimentation pose énormément de problèmes. Et c'est en général le déclic chez tout le monde. J'ai des personnes avec qui j'ai travaillé un an, on voyait aucun changement. Après un an, j'ai su les convaincre de se mettre un petit peu à jour au niveau de l'alimentation. Et maintenant, on a des résultats absolument fabuleux. Et moi, justement, à l'époque, j'étais timide d'aller à la salle. J'étais pas à l'aise. Et je me suis dit, je vais déjà commencer avec ça. Et en fait, c'est ça qui m'a fait perdre mes 25 kilos. Ensuite est venu le sport. C'est un combat quotidien, en fait, pour prouver qu'en tant que coach femme, je ne suis pas juste une coach de femme, voilà, que je ne suis pas forcément dans la douceur tout le temps. Donc je suis, j'ai vraiment deux côtés en termes d'entraînement. J'ai aussi plusieurs personnes différentes dans ma team, parce que moi j'appelle ça une famille, une team. Et chaque entraînement est différent aussi. Et en fait, des anecdotes, j'en ai tous les jours. En fait, je me bats pour prouver qu'en tant que coach femme, on peut apporter autant de résultats à un homme qui veut devenir fort, très large, très musclé, hein, voilà. Ou à une femme qui veut devenir très forte, très large, très musclée. Les personnel trainers femmes, elles ont encore, pour moi, du mal à se crédibiliser en tant que telles. Donc j'ai été quand même sujette à pas mal de propositions déplacées, comme si c'était normal, comme si en fait le legging n'était pas mon habit de travail, mais un vêtement qui me servait à guicher autour de moi. Jamais je me suis dit bah du coup je vais changer de pantalon, mettre un long pull, voilà, non, j'ai chaud, j'ai envie de m'entraîner en brassière, je vois pas le problème en fait. Donc voilà, toi tu retires ton t-shirt, on t'a rien demandé. Et puis au CrossFit, moi j'adore faire des équipes avec des garçons et j'adore m'amuser à les détruire tout simplement. Tout simplement parce qu'en général ils sont forts et tout, mais alors ils ont un cœur mais pété. Et du coup, bah, ils savent pas courir, ils savent pas sauter, ils sont essoufflés hyper vite. Souvent, quand je m'exprime en présence féminine ou masculine, on me répond « bah t'es une féministe en fait ». Mais je n'ai aucune idée de ce que c'est une féministe, parce que je pense qu'il y a plein de féministes différentes. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des valeurs en tant que femme. En tout cas, moi, j'ai une vision de ça. J'ai toujours été entourée de beaucoup de garçons en fait. Et donc, du coup, j'essayais toujours d'être au-dessus de tous ces garçons et amener mon petit combat de « non, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas faire ça ». Et ça, c'était vraiment la phrase depuis, je pense, mes 8 ans facile. J'ai l'impression d'être féministe au quotidien. Je pense que ça fait partie de moi. Plus jeune à l'école, ben justement, comme j'étais souvent entourée de garçons, les filles s'en prenaient à moi. Donc en fait, j'ai toujours dit « j'aime pas les filles ». Puis un jour, je suis tombée amoureuse d'une fille. Puis j'ai dit « finalement, j'aime bien les filles ». Et voilà, pas spécialement en couple avec des femmes au quotidien, mais c'est j'ai appris en fait à créer une liaison et une force ensemble. J'ai su accueillir les autres femmes dans ma vie, mais d'une manière très très positive. Alors c'est difficile parce que d'ailleurs dans le sport il y a pas mal de jalousie, alors qu'en fait ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est vraiment cette force collective quoi. Moi j'aime bien dire ça, j'aime bien dire allez on va se faire un câlin maintenant, hein, parce que ça fait du bien, hein, et on va réunir nos énergies et ça va nous faire du bien, et puis on va passer une bonne journée.
Alors c'était Maya, qui est coach sportif dans pas mal d'endroits à Bruxelles. Donc on va mettre le lien, elle a une page Instagram, elle est, c'est une coach sportive d'aujourd'hui, donc elle met plein de vidéos sur Instagram, plein de trucs comme ça. Moi je l'ai découverte parce que je fais du kung-fu avec un coach homme et ils sont amis, et j'avais envie d'interviewer. En fait je connaissais pas du tout le monde du coaching. Et c'est très chouette, ces gens qui t'encouragent à faire du sport. Je trouve ça assez incroyable, en fait. Et qui ont plein de techniques, qui connaissent le corps, tout ça. Donc voilà, comme ça, c'était Maya. Et puis, maintenant, on peut écouter... En fait, on a notre chère Justine Paul Extrat sur Facebook qui nous a fait une capsule alter à sa façon. Donc, elle est avec nous ce soir. Et voici son alter.
Bonjour, quenouilles et athlètes. Je dépose aujourd'hui, en souplesse, je l'espère, cette extrapolation à 4 mains. Quand on me dit haltère, j'ai des images qui me viennent d'anatomie extrême, de veines saillantes, de bouche en train de souffler sous l'hyper-volonté dans une salle toute collante. L'inventaire exagère pour m'aligner des corps gonflés, des silhouettes qui se monstrent en cherchant à s'aimer. Je pense aux efforts répétés, musclés par l'exigence qui sèche la bienveillance. Je pense à ces radicalités qui font qu'on se charge de soi en crispant le soma.
Peut-être qu'il y en a qui se désirent monuments dans des masses d'écorchés, quand d'autres se voudraient comme du vent, tout à fait autrement. Immense de ce rien d'espace que peuvent prendre les eaux, que referme la peau. Puisqu'on me dit altère et que le singulier, en hachant la consonne, fait dans l'altérité, je pense à mon altère qui m'aura entraîné à la force d'exister. Ma sœur, qui parmi les vivants cherche comment peser. Comme je jaugeais moi-même les mots pour en parler, j'ai fini par l'appeler hier. Sa guerre à l'appétit, elle la connaît trop bien, si bien qu'elle a écrit très vite. Aujourd'hui, elle nous lit son fardeau avec sa légèreté. Merci à elle, à toi, de raconter.
Entre fardeau et gramme, ma farine animale me quitte le cannibale. En cette chair tendue, la masse est malvenue et se paie au quintal. Je me dompte, Hannibal. La table se fait étale. La chaleur tournante n'entérine la terrine des narines exigeantes qui mandent à l'unisson des iris en frisson, une flambante correction. Augmentant le temps de cuisson, mes cuisses ont sous pression un ventre limaçon qui colle transpiration en trop grand pantalon. L'onction se veut extrême, une surdose de crème. Que ça fonde, je m'essaime, abats tous les œdèmes, j'en pince pour le ferme, ce n'est que blême, qu'un peu, je m'aime. Pourtant, la boule au bras, là, 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 ça, ça, ça je n'en veux pas. Le muscle est impromptu, dans les charges non contenues. Pas convenu, mère dodue, dodelinant tendu, au temple marché eu, en douteux m'as-tu vu. Un petit poids, feu vert, bon duel, fait bon cartel, sage duel, dans l'insipide vaisselle, le soma en ficelle, prescrit la ritournelle. La querelle aux carottes, qui s'allie aux gavottes, impose les menottes. J'altère mes quenottes, le sucre sale la note. Aiglou, aiglou, aiglotte. Le squelette en compote, en minute cocotte. Je me porte soutif culotte, à la balance porcine, sous l'œil de la médecine, au pointage clinique, où je chique, où je tique, honteuse et haletante, éthique, et tac, éthique, en proie à la jauge lente, un clic, la claque, je hic, le chiffrage en attente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halte à la gravité. En bas, laissez peser, le morceau est jugé. Retomber, le souffler. Je rabis mon ego, altère en perd les mots. Je étends le frigo, ces mauvais jeux de go. 1, 2, 3, c'est de trop. Je me dégomme pas fier. Cette farce alimentaire me serre, m'enterre, m'enferre. Je remâche sévère cet ordre élémentaire qui a cours primaire. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. L'équilibre est précaire. Je goûte la race aviaire, dans trop de bulles d'air, en grippe de dessert, je bois un frais désert. L'estomac aux artères, les intestins en guerre, et tous ces nœuds de nerfs, mon corps, ma bataille, me défroque aux victuailles par une loi tenaille. Cette grammaire grabataire m'interdit leur légère comme j'encombre mes pères. Alors, sous mes paupières, je dessine sans visière ma matière, mon éther.
Margot, vas-y.
Par rapport aux entraînements de boxe, si ça intéresse quelqu'un, c'est à la FLAC, donc à Anderlecht, rue des Orchidées. Et c'est chaque mardi soir à 19h et jeudi soir à 19h. Bienvenue. Et vous pouvez aller voir les informations sur la page Facebook des Quenouilles, il y a tout ce qu'il faut.
Voilà, et puis il nous reste quelques secondes pour peut-être parler d'un événement qui se termine demain, donc le 7 octobre. Pouvoir et dérives, c'est la troisième partie et troisième journée. Et demain, c'est le collectif Collectiva. Qui va présenter ses démarches, etc., et qui proposera l'après-midi, ça c'est le matin, et l'après-midi, il y aura un atelier sur les résistances patriarcales face aux quotas, un atelier d'autodéfense et de réflexion facilité justement par Collectiva. Quenouille Rima, à toi.
Et les Quenouilles vous retrouvent le mercredi 4 novembre avec le mot semence.
Semence, semence. Bonne nuit les Quenouilles, à mercredi.
dans un mois.
Salut.
Ciao. Minuit.